VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous, le monde aujourd'hui, édition du mercredi 26 décembre 2018, en direct de Washington, Jean-Roger Billon
et Michel Joseph.
Pour commencer, les titres.
Élection en RDC, l'opposition interpelle les opérateurs de téléphonie mobile, les candidats soupçonnent la commission électorale d'avoir acheté des cartes SIM pour transmettre les résultats par voie électronique le jour du vote, sans attendre le comptage manuel des voix.
La commune de Bangourin, dans l'ouest du Cameroun, cible des assauts des séparatistes anglophones. 15 personnes ont été tuées et 80 maisons brûlées selon Yaoundé. Reportage à suivre dans la deuxième partie de cette édition.
Le ministère libyen des Affaires étrangères, attaqué à Tripoli, on déplore 3 morts, dont un diplomate. L'attaque a été revendiquée par l'État islamique.
Ici aux États-Unis, décès d'un deuxième enfant migrant guatémaltèque en prison. Le Guatemala, pays d'origine de l'enfant, va demander aux autorités américaines une enquête transparente et sérieuse sur cette affaire.
Ne manquez pas notre passeport ainsi que la Minute Écho.
Pour l'instant, le journal.
En RDC, la controverse sur la machine à voter a repris de plus belle à 4 jours des élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales. 8 candidats, dont Martin Fayoulou, accusent la CENI de chercher à organiser des élections chaotiques en RDC. De Kinshasa, la correspondance de notre envoyé spécial, Abdourahmane Dia.
Ces 8 candidats sur les 21 ont, dans une déclaration rendue publique mardi, demandé aux opérateurs de téléphonie de rendre publics les numéros affectés aux puces destinées aux machines à voter pour la transmission des données électorales. Ils veulent même que ces cartes SIM soient désactivées. Ces candidats, dont Martin Fayoulou de la coalition Lamouka, Théodore Ngoy et Marie-Josée Ifoku, la seule femme candidate, disent se baser sur les témoignages de membres du personnel de la CENI sur le vote électronique et diffusé sur une chaîne de télévision. Cependant, la CENI continue d'insister que les résultats des élections seront ceux issus de procès-verbaux des bureaux de vote. Donc, pour l'instance chargée d'organiser le scrutin, il est toujours question de vote manuel avec un dépouillement et un comptage comme pour les scrutins précédents. Mais ces candidats rappellent aussi dans leur déclaration que la CENI avait également invoqué l'insécurité à Yumbi où des violences ont éclaté récemment et l'épidémie d'Ebola à Beni et Butembo pour justifier le report d'une semaine du scrutin. Abdourahmane Dia, VOA Afrique, Kinshasa.
Toujours en République démocratique du Congo, 4 militants du mouvement citoyen congolais Filimbi ont été libérés mardi après un an de prison. Le coordonnateur Carbone Beni et 3 de ses camarades sont sortis le jour de Noël de la prison centrale de Makala à Kinshasa, a rapporté la radio onusienne Okapi. Ils avaient été arrêtés le 30 décembre 2017 après avoir appelé les Congolais à une marche le lendemain contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila. En septembre, ils avaient été condamnés à un an de prison ferme, notamment pour offense au chef de l'État. Auparavant, ils avaient été détenus pendant plusieurs mois au secret.
Des centaines de personnes ont manifesté mardi à Khartoum, mais un important dispositif de sécurité a empêché toute marche vers le palais présidentiel au 7e jour d'un important mouvement de protestation contre la cherté de la vie. Des manifestations qui ont touché jusque-là une dizaine de villes ont éclaté le 19 décembre après la décision du gouvernement de tripler le prix du pain dans un pays en plein marasme économique. Selon Amnesty International, 37 manifestants ont été abattus par les forces de sécurité depuis le début du mouvement. L'ONG de défense des droits humains a exhorté les autorités soudanaises à cesser l'usage meurtrier de la force.
3 personnes, dont un diplomate, ont été tuées dans une attaque terroriste revendiquée par le groupe État islamique contre le ministère des Affaires étrangères mardi à Tripoli, illustrant le chaos sécuritaire qui prévaut dans le pays. Selon un dernier bilan du ministère libyen de la Santé, 21 personnes ont par ailleurs été blessées dans cette attaque qui a été notamment condamnée par la mission de l'ONU en Libye, la Manoul et l'ambassade britannique.
En Tunisie, de nouveaux heurts ont opposé hier mardi la police à des manifestants à Kasserine, dans l'ouest du pays, peu après l'enterrement d'un journaliste qui s'était immolé par le feu la veille. John Linden a des détails.
Les forces de l'ordre ont fait usage des gaz lacrymogènes pour disperser des dizaines de manifestants et des affrontements ont opposé les deux camps. Le journaliste Abdelrazak Sorghi, 32 ans, est décédé lundi soir après s'être immolé par le feu. Pour les fils de Kazerine qui n'ont pas de moyens de subsistance aujourd'hui, je vais commencer une révolution, je vais m'immoler par le feu, avait déclaré le journaliste dans une vidéo qu'il a publiée avant sa mort. Ce drame a suscité la colère des habitants de cette ville défavorisée et dans la nuit de lundi à mardi, des dizaines d'entre eux ont brûlé des pneus et bloqué la rue principale du centre-ville. Kasserine est l'une des premières villes où avaient éclaté fin 2010 des manifestations pour protester contre la pauvreté et la marginalisation. La police avait alors tué des manifestants. Provoqué par l'immolation par le feu en décembre 2010 d'un jeune vendeur ambulant de Sidi Bouzik, excédé par la pauvreté et les humiliations policières, les manifestations s'étaient ensuite propagées à travers tout le pays et avaient conduit au renversement du régime de Zine El Abidine Ben Ali en janvier 2011.
Le Parlement éthiopien a adopté mardi une loi instituant une commission de réconciliation qui aura pour principale tâche de mettre un terme aux violences intercommunautaires et documenter les violations des droits humains commises dans le pays. L'objectif de la commission est de maintenir la paix, la justice, l'unité nationale, le consensus et la réconciliation entre les peuples éthiopiens, selon la radio Fana, proche du pouvoir sur son site internet. Selon le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU OCHA, au moins 4 millions de personnes sont actuellement déplacées en Éthiopie en raison de violences intercommunautaires.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Décès hier d'un garçon guatémaltèque placé dans un centre de rétention au Nouveau-Mexique. Il est mort dans un hôpital de cet état du sud des États-Unis. C'est le deuxième enfant migrant détenu par les autorités à mourir en décembre. Des détails avec Lionel Gahima.
L'enfant âgé de 8 ans, détenu dans un centre du CBP, le service des douanes et de la protection des frontières, avait été transféré immédiatement lundi avec son père vers une structure hospitalière après avoir montré des signes de maladie possibles, selon un communiqué du CBP transmis à l'AFP. Malgré des soins médicaux, l'enfant est décédé peu après 0h le 25 décembre. Nous devons exiger des responsabilités, trouver des réponses et mettre un terme aux politiques anti-migrants haineuses, dangereuses de cette administration, a écrit sur Twitter Nadia Velasquez, élue démocrate de New York à la Chambre des représentants. La cause officielle de la mort de l'enfant n'est pas connue, a précisé le CBP, assurant qu'un examen indépendant et approfondi des circonstances du décès serait fait. Le 8 décembre, une fillette guatémaltèque de 7 ans avait perdu la vie après son arrestation par des gardes frontières américains. Des milliers d'enfants migrants sont actuellement détenus dans des structures surpeuplées.
Au Yémen, les rebelles et le camp gouvernemental continuent de s'accuser mutuellement ces derniers jours d'avoir violé le cessez-le-feu mis en place après des pourparlers en Suède. Le chef des observateurs civils de l'ONU, le néerlandais Patrick Kamaet, doit présider aujourd'hui même, selon l'ONU, la première réunion du comité mixte rebelle-gouvernement chargé de mettre en œuvre la trêve, mais aussi le retrait des combattants des ports de Hodeida, de Salif et de Ras Issa dans la même province. Depuis son arrivée au Yémen samedi, M. Kamaet a appelé aussi bien les Houthis que le camp gouvernemental à respecter la trêve.
La Syrie et Israël ont chacun affirmé avoir déclenché mardi soir leur système de défense anti-aérien, les deux pays s'accusant mutuellement d'avoir entamé les hostilités. L'agence officielle Sana, qui fait état de 3 soldats blessés, a assuré que l'agression de mardi a été menée depuis l'espace aérien du Liban, petit pays voisin de la Syrie et d'Israël. Si la responsabilité d'Israël était avérée, il s'agirait des premières frappes menées depuis que le président américain Donald Trump a annoncé la semaine dernière le retrait des troupes américaines de Syrie.
Le pape François a appelé mardi à la paix dans les zones de conflit comme la Syrie ou le Yémen et à la fraternité entre les peuples au moment où des millions de chrétiens dans le monde célébraient Noël. Dans son traditionnel message de Noël, le pape François a appelé à la fraternité entre les peuples et a œuvré en faveur de la paix en exhortant à se préoccuper du sort des réfugiés syriens et des populations victimes de la guerre et de la famine au Yémen. Le pape n'a pas manqué d'évoquer le conflit israélo-palestinien, renouvelant un appel au dialogue que la fête de Noël permettent aux Israéliens et aux Palestiniens de reprendre le dialogue et d'entamer un chemin de paix qui mette fin à un conflit de 70 ans.
Les secouristes indonésiens s'efforçaient aujourd'hui de récupérer des habitants pris au piège sur des îles reculées et d'atteindre les villages les plus isolés dans le sillage du tsunami déclenché par un volcan. Les travailleurs humanitaires ont prévenu que les ressources en eau potable et en médicaments étaient insuffisantes, ce qui fait craindre une crise sanitaire alors que des milliers de déplacés vivent dans des refuges bondés ou à l'hôpital. Beaucoup ont perdu leur maison dans la vague tueuse. Le tsunami a frappé soudainement samedi soir les rives du détroit de la Sonde qui sépare les îles de Sumatra et de Java, faisant 429 morts, 1485 blessés et 154 disparus.
Et maintenant, la minute éco avec Nani Talani.
Le Nigeria annonce avoir résolu un différend avec le premier opérateur de téléphonie mobile d'Afrique, MTN, portant sur un montant de 8,13 milliards de dollars qu'il accusait la grande société sud-africaine d'avoir rapatrié illégalement dans son pays. Selon la Banque centrale du Nigeria, MTN n'avait pas obtenu l'autorisation requise avant de rapatrier les fonds entre 2007 et 2015. MTN a payé 53 millions de dollars au titre des pénalités pour régler l'affaire avec la Banque centrale du Nigeria, mais d'autres discussions auront lieu avec les banques pénalisées sur la manière de gérer les sanctions. Au Rwanda, la Banque centrale a relevé le seuil de capital minimum requis pour les banques commerciales à 20 milliards de francs rwandais contre 5 milliards jusque-là, d'après l'agence Ecofin. Celui des banques de développement passera de 3 à 50 milliards de francs rwandais. Les banques ont un délai de 5 ans pour se conformer à ces exigences. Terminons avec le Libéria où la Société nationale d'électricité promet la fourniture d'énergie stable en 2019. En plus de la stabilité, la société compte doubler le nombre d'utilisateurs et réduire le prix de l'électricité. Elle espère également ajouter de nouveaux clients au réseau grâce à l'hydroélectricité.
À présent, la page de sport avec Bagassi Koura. Bagassi, bonjour.
Oui, bonjour Jean-Roger.
En football, fair play financier, l'AC Milan fait appel à des sanctions de l'UEFA.
Oui, l'AC Milan a fait appel devant le TAS, le tribunal arbitral du sport, des sanctions prises par l'UEFA à son encontre. C'est ce qu'annonce le club lombard, suspecté par l'instance européenne de ne pas respecter les règles du fair play financier. Le 14 décembre, l'UEFA avait décidé d'exclure le club milanais de l'une des compétitions organisées par l'instance européenne en 2022 ou en 2023 s'il n'est pas à l'équilibre au 30 juin 2021.
Le Néerlandais Frank de Boer a été nommé entraîneur d'Atlanta.
Oui, de Boer remplace l'Argentin Gerardo Martino sur le banc d'Atlanta qui vient de remporter le championnat nord-américain de football. En tant qu'entraîneur, l'ancienne star internationale âgée de 48 ans a obtenu 4 fois le titre de champion des Pays-Bas avec son club, l'Ajax d'Amsterdam. De Boer, qui prendra ses fonctions le 1er janvier, n'a résisté que 85 jours aux commandes de l'Inter Milan après avoir perdu 4 matchs sur 5 en Serie A. Par la suite, il a pris les rênes de Crystal Palace en Premier League, mais n'a survécu que seulement 10 semaines dans ce championnat. De son côté, Gerardo Tata Martino, ancien entraîneur du FC Barcelone et ex-sélectionneur de l'Argentine, devrait prendre prochainement les commandes de la sélection mexicaine.
Basketball, performance remarquable de Giannis Antetokounmpo.
Oui, le grec d'origine nigériane n'a pas fait de cadeau aux Knicks de New York et aux spectateurs du Madison Square Garden. Le phénomène grec de Milwaukee a martyrisé ce mardi la franchise new-yorkaise qui s'est inclinée 109 à 95 avec ses 30 points et 14 rebonds en 35 minutes de jeu. Antetokounmpo a conforté son statut de prétendant au trophée de meilleur joueur de la saison. L'ailier âgé de 24 ans a écœuré les Knicks qui avaient pourtant rallié les vestiaires à la pause avec seulement 2 points de retard, 48 contre 46. Les Bucks qui n'avaient plus disputé un match le 25 décembre depuis 1977 et qui restaient sur une défaite à Miami, 94 à 87, ont repris leur marche en avant et affichent un bilan de 23 victoires pour 10 défaites, synonyme de deuxième place de la conférence Est à 2 victoires du leader Toronto, Jean-Roger Billon. 4 autres matchs étaient au programme ce Christmas Day.
Eh bien, Bagassi, Koura, Oklahoma City a perdu face à Houston, 109-113. Défaite de Philadelphie face à Boston, 114-121. Les Lakers de Los Angeles ont disposé des Californiens de Golden State, 127-121. Et pour le dernier match de la soirée de Noël, Portland s'est incliné chez lui devant Utah Jazz, 96-117.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Jean-Roger Billon. Nous passons maintenant à nos dossiers de ce jour. Les autorités camerounaises affirment que des centaines de personnes ont fui les villages d'une région francophone de l'Ouest après que des séparatistes anglophones présumés ont enlevé 15 personnes et incendié 80 maisons. À Bangourin, reportage de Moki Edwin Kinzeka, récit Bagassi Koura.
Les villages francophones de Menkofout et de Choupat dans l'ouest du Cameroun sont presque vides. Une attaque de présumés séparatistes anglophones lundi matin a fait fuir des centaines de villageois de la région. Constantine Djouir, 50 ans, membre de la milice Menkefou, dit avoir eu de la chance pour s'en être tiré seulement avec une blessure de machette à la jambe. Il explique avoir assisté à la mort d'un membre de sa milice qui a été blessé à la poitrine et à l'estomac avec des couteaux et des machettes. En plus d'avoir mis des maisons en flammes, dit-il, les combattants tiraient à l'aveuglette et emmenaient tous ceux qui résistaient. Wojir soutient que les hommes armés disaient qu'il faut que le gouvernement libère tous les Camerounais anglophones arrêtés, sinon il va en payer le prix. Elvis Suignou, enseignant d'école publique dans le village de Choupat, lui affirme que les assaillants menaçaient de revenir si les dirigeants anglophones n'étaient pas libérés.
C'était de jeunes garçons portant des armes à feu et tirant. Un homme a été tué. Comme vous pouvez le voir, beaucoup de gens sont partis parce qu'ils nous avaient promis qu'ils reviendraient. Mais nous ne connaissons pas vraiment leur prochain plan. Si le gouvernement n'est pas là pour nous aider, il y aura une catastrophe grave.
Le gouverneur de la région occidentale, Augustine Awa Fonka, affirme que plus de 300 hommes armés ont participé à l'attaque. Il indique qu'ils ont enlevé 15 personnes et incendié des maisons, des voitures et des motos et ont pillé des biens.
Plus de 86 maisons ont été détruites par des hommes armés non identifiés, composés principalement de jeunes hommes et femmes qui sont apparus dans ce village et ont détruit des maisons et des biens. On fait battre les gens et les ont laissés dans la souffrance, la pauvreté et les traumatismes. Je tiens à les rassurer que le gouvernement va redresser la situation. Beaucoup de militaires sont déployés pour protéger la population.
Le gouvernement a imputé l'attaque aux séparatistes anglophones de la région voisine du Nord-Ouest, affirmant qu'il s'agissait apparemment d'hommes qui fuyaient les raids militaires. Les séparatistes camerounais n'ont donné aucune réponse immédiate à cette accusation. C'est la deuxième fois que la région de Bangourin, où se trouvent ces villages, est attaquée. Le gouvernement a déployé l'armée et demandé aux communautés proches des zones séparatistes de créer des milices d'autodéfense dans leurs villages.
Toujours au Cameroun, l'élection présidentielle, les débats sur les contentieux liés au scrutin, le retrait de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2019 et bien sûr la crise anglophone sont les principaux événements qui ont retenu l'attention des Camerounais au cours de l'année qui s'achève. Mise en perspective, Emmanuel Julintap. I do so
swear. La voix est celle du président Paul Biya, prêtant serment le 6 novembre 2018 pour un septième mandat.
J'ai reçu du peuple camerounais un mandat clair que j'entends défendre fermement jusqu'au bout.
Maurice Kamto, candidat du mouvement pour la renaissance du Cameroun pour l'élection présidentielle, réclamant sa victoire à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Les Camerounais sont loin d'oublier ce moment fort de la vie politique du pays.
La contestation post-électorale de Monsieur Kamto, ça m'a beaucoup vraiment marqué. C'est son courage, sa détermination qui m'a beaucoup marqué.
Je n'ai pas su qu'on a voulu sa victoire. Et moi, je n'ai pas cru à sa victoire. Bien sûr que je suis de l'Ouest comme lui. Moi, j'estime que ses revendications étaient vaines.
C'était devenu comme une guerre tribale, puisqu'il y avait cette forme de division, que les tribus, ceux du centre disant que le candidat qui s'était autoproclamé était de la région de l'Ouest. Les Camerounais n'ont pas cédé à cette panique-là, ça fait un pas de plus pour le Cameroun.
Si le chaos a été évité sur le plan politique, le retrait de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2019 au Cameroun, en fin novembre 2018, a plongé tout un pays dans les mois.
La décision a été un coup de poignard dans le cœur des Camerounais.
Nous sommes tout simplement déçus. Ce n'est pas le pays de Samuel Eto'o, de Roger Milla qui devait avoir ce genre de problème.
C'est depuis 5 ans que nous avons prévu organiser la Coupe. Durant ces 5 ans-là, rien n'a été fait. Les engagements qui ont été pris n'ont pas été fondés.
Il faut qu'on nous remette la canne. On met cette canne.
L'insécurité dans les régions anglophones, le nord-ouest et le sud-ouest, a été l'un des arguments évoqués par la CAF pour retirer la CAN 2019 au Cameroun. Preuve qu'en 2018, la crise anglophone s'est enlisée, malgré la libération en décembre de 285 détenus. Anissaï Kané, homme politique, président du parti Manidem, demande plus de détente pour l'année 2019.
Il faut arriver à une discussion nationale sur le devenir du pays. Il y a la décentralisation, il y a la forme de l'État, il y a la gestion publique. Il ne doit pas avoir de questions tabous lorsque le pays est dans la situation dans laquelle il se trouve.
Aya Abiné, responsable d'une fondation qui soutient les victimes de la crise anglophone, a des propositions plus concrètes pour sortir de 3 ans de crise anglophone en 2019.
Libération de tous les prisonniers politiques. On construit les villages qu'on a incendiés. On fait revenir tous ceux qui sont dans les brousses et les déplacés qui sont côté francophone du pays et les réfugiés au Nigeria. Si ceci est fait, un retour au calme, ce sera naturel.
À l'observation, ce sont les 3 derniers mois qui ont finalement marqué de leur empreinte l'année 2018 au Cameroun. Yaoundé, Emmanuel Jelunta, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Retour ce matin sur la messe de Noël en la cathédrale Notre-Dame du Congo à Kinshasa, dans son homélie, le nouvel archevêque de la capitale, Monseigneur Fridolin Ambongo, s'est dit opposé à un autre report des élections du 30 décembre en RDC. Par ailleurs, 8 des 21 candidats à la présidentielle ont accusé Corneille Nanga, le président de la CENI, de préparer des élections chaotiques. Reportage de Thierry Kamodi de Top Congo FM, nos stations partenaires à Kinshasa.
À 4 jours des élections et alors que la Commission électorale nationale indépendante a rappelé en début de semaine qu'elle travaillait pour la tenue effective du scrutin ce dimanche 30 décembre 2018, le nouvel archevêque de Kinshasa a signifié dans son homélie de la Noël qu'un nouveau report ne serait pas toléré. Monseigneur Fridolin Ambongo a par ailleurs appelé les chrétiens catholiques à un vote responsable et la CENI à faire en sorte que les résultats des élections reflètent la réalité des urnes. Que chacun prenne ses responsabilités en main. Nous allons démontrer les dimanches que nous sommes des hommes intelligents et sages. Nous voulons les élections et ne pouvons plus accepter des reports. Les élections doivent avoir lieu. Pensez avant de glisser votre bulletin dans l'urne à votre propre vie. Ne votez pas pour l'argent. Pendant ce temps, le collectif des candidats présidents de la République, composé de 8 candidats sur les 21 courses, a, dans une déclaration faite mardi à Kinshasa, accusé la CENI de préparer des élections chaotiques en RDC. Théodore Ngoy, qui a lu le communiqué, a appelé la population à la vigilance.
La CENI, ainsi que M. Corneille Nanga, manifestement déterminés à organiser des élections chaotiques en RDC, porteront toute la responsabilité des conséquences qui découleront de la tenue de telles élections. Appelons le peuple congolais à l'extrême vigilance pour que la victoire du peuple ne lui soit pas volée ce dimanche 30 décembre 2018.
Loin de la sphère politique, ce mardi était avant tout jour de Noël. Certains parents étaient donc plus préoccupés par la célébration de cette fête chrétienne dans leur famille.
C'est une très grande fête pour nous les chrétiens et nous fêtons ça en famille. On donne l'occasion aux enfants de nous raconter
c'est des petites histoires. La conjoncture est difficile.
Non, les enfants vont manger ce que nous avons. Hein. Il y a le poulet, le pondou. Bon, on n'a pas été payé. On n'a pas d'argent, on se débrouille.
J'ai fait comme ça dans la méditation et puis c'est tout. Je n'ai pas l'argent. Parce que rester à la maison, bon, peut-être ça me fera mal quand je vois les voisins, peut-être les enfants sont en train de fêter, mais mes enfants sont à la maison. C'est pourquoi j'ai préféré peut-être d'aller se promener et puis rentrer le soir à la maison.
Ce mercredi, les activités reprennent normalement à Kinshasa avec une attention particulière sur le travail de la Commission électorale nationale indépendante. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en RDC, à Lubumbashi évidemment sur le 102.8 FM.
Au Ghana, la célébration de Noël n'aurait pas le même goût sans les boissons traditionnelles comme le vin de palme, le cocoroco ou encore le pito. Le marché de l'alcool, autrefois dominé par les multinationales, est aujourd'hui aux mains des Ghanéens. Cette saison consacre donc l'âge d'or des boissons made in Ghana. Salwa Jafari.
Au Ghana, Noël se célèbre dignement un verre de cocoroco ou de pito à la main. Des boissons auxquelles les Ghanéens redonnaient une seconde vie, elles ont été ressuscitées, revisitées, remises au goût du jour, comme ce cocktail de cocoroco au jus d'hibiscus.
Décembre est la période la plus animée de l'année pour la plupart des restaurants, bars et vendeurs de boissons, principalement parce que les Ghanéens prennent Noël très au sérieux.
Dans la ville portuaire de Tema, ces Ghanéens décompressent à la Pito House. Pendant plus de trois décennies, Véronica Dakoura, grand-mère de 67 ans, y prépare son célèbre Pito, une infusion à base de sorgho séché et d'eau. Dans sa cour, de grands chaudrons bouillent à longueur de journée sur un feu de bois. Une fois sa fameuse boisson à point, Dakoura la sert dans une calebasse à consommer sur place ou à emporter. Il l'aime bien car dans le pito, il n'y a pas de produits chimiques. Donc quand on le prend, on se sent bien, même si on est malade. Dakoura sait que la demande augmentera probablement à l'approche de la fin de l'année, quand les fêtards affluent en masse dans les clubs et sur les plages pour dire au revoir à 2018.
Lorsque vous comparez le prix de cette boisson à celui des autres, c'est bien moins cher, très bon.
You can buy a bottle of beer.
Vous pouvez acheter une bouteille de bière à 1 $. Pour ce prix-là, vous pouvez acheter près de 5 litres de pito que vous pouvez partager avec 4 personnes.
Guinness, Heineken et autres n'ont qu'à bien se tenir. Les bières et les boissons locales débarquent en force. Leur goût peut être différent, mais au bout du compte, au fond de la bouteille, leur effet est le même, joie de vivre et convivialité, avec modération bien sûr.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
He got all them girls shook. My big fat ass got all them boys cook. Went from dollar bills, now be popping rubber bands. Bruno Sang, tell me while I do my money dance. Like, hey. Flexing on the ground like, hey. Hit that little John, okay. Oh, yeah, we dripping the finesse and getting paid.
Ooh, don't we look good together? There's a reason why they watch all night long.
Merci donc à Bruno Mars et à Cardi B pour l'aération musicale. Le Monde aujourd'hui, ce sera tout pour cette édition de ce mercredi 26 décembre 2018. Merci de l'avoir suivi. Daryl Smith à la console, Michel Joseph pour la réalisation et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Jean-Roger Billon à ce micro. Nous émettons de Washington. Bonne journée à tous à l'écoute de VOA Afrique.